Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les théâtres de conflits se multiplient au Moyen-Orient et en région Indo-Pacifique. L'Europe n'est pas davantage épargnée par les tensions qui se développent. Tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, tensions à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne et au-delà, tensions également en mer de Chine du Sud. À croire que les grandes puissances n'hésitent à nouveau plus à prendre le risque de la guerre. Une guerre comme celle qu'a connue le XXe siècle est-elle de nouveau possible? François Hesbourg, spécialiste de géopolitique, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique est notre invité. Son dernier ouvrage, Le retour de la guerre, paru chez Odile Jacob. François Hesbourg, bonjour.
Bonjour.
La crise du Covid semble avoir permis à la puissance chinoise de s'affirmer sans doute plus que jamais. Parallèlement, les États-Unis ont offert au monde une image de chaos avec le départ cet été d'Afghanistan. Signe ou non de déclin, ce départ marque la volonté des États-Unis de se recentrer sur l'Asie après 20 années de guerre ou de lutte contre le terrorisme au résultat plus ou moins incertain. En quoi, François Hesbourg, le risque de guerre vous paraît-il plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était avant la pandémie? Et quelles sont les raisons de cette montée de tension?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est ce que vous venez quelque sorte de décrire, c'est l'état du monde, la montée de la Chine, l'Amérique sur la défensive, sont des conditions assez classiques d'interaction entre une puissance montante et une puissance qui essaye de préserver son statut. Et ça, historiquement, c'est plutôt belligène.
Hein. C'est le piège de Thucydide.
C'est ce qu'on appelle parfois le piège de Thucydide. J'en évoque un autre qu'on appelle le piège de Kindelberger. Mais ça, on pourra, le cas échéant, en reparler. L'état du monde, toujours s'agissant du délitement des éléments d'ordre international. Bon, l'ordre international a été traditionnellement relativement faible. Les Nations Unies n'ont pas tenu toutes les promesses qui avaient accompagné sa naissance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin, il y avait quand même quelques références communes, quelques éléments d'ordre. Ceux-là, ils sont en train de s'effilocher. Et puis, il y a un tout autre domaine, mais qui interagit avec le précédent, c'est l'évolution de la technique, de la technologie, à savoir non seulement l'extension de la conflictualité dans de nouveaux domaines, c'est le cyberespace, l'espace tout court également, mais avec un effet qu'on n'a peut-être pas encore toujours très bien mesuré, c'est que cette évolution-là conduit à plus d'instabilité, à des risques de guerre, y compris militaires, plus élevés que naguère. Alors, tout ça avait démarré avant même la pandémie, mais la pandémie a servi de catalyseur.
De quelle manière?
De deux façons qui se complètent. La première, c'est que la pandémie a donné lieu à une compétition entre puissances, avec notamment la Chine, qui a essayé très tôt de se poser en modèle dans la lutte contre la pandémie, peut-être trop tôt d'ailleurs, parce que la pandémie n'est pas terminée, et on s'aperçoit aujourd'hui que non seulement nous ignorons toujours l'origine de la pandémie, ce qui est ennuyeux quand même pour préparer l'avenir, et que par ailleurs, la Chine subit aujourd'hui les effets économiques et sociaux de la durée longue de la pandémie, et à la politique zéro Covid qui a été celle de la Chine comme celle d'un certain nombre d'autres États de la région n'ayant pas tenu ses promesses. Et de l'autre côté, les États-Unis, pas oublier que c'était Trump qui était aux manettes, qui avait joué en contre vis-à-vis de la Chine. Donc ça, j'allais dire, c'est l'aggravation du jeu des puissances. Mais alors, quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que nous nous sommes aperçus, à l'occasion de la pandémie, que face à un défi mondial, majeur, affectant l'ensemble de l'humanité, politiquement, les gouvernements n'ont pas su ou n'ont pas voulu travailler de façon multilatérale, de façon coordonnée. On a été sauvés par les savants, par les chercheurs, par les laboratoires, Par contre, ce à quoi nous avons assisté, c'est un déferlement d'égoïsme dont la principale victime aujourd'hui est l'Afrique, qui est terriblement sous-vaccinée, avec d'ailleurs des effets en ricochet extrêmement désagréables pour le reste du monde. C'est une politique de gribouille. Or, ça, c'est malheureusement une sorte de préfiguration de ce qui nous attend pour la gestion d'une crise plus longue, plus dure, qui est celle du réchauffement climatique. Et ça, évidemment, c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
Et pas d'unité face aux défis mondiaux, c'est un triste constat que vous faites là, François Hesbourg. Alors, on va prendre quelques exemples de ces montées de tension. Ils sont multiples. On commence par ce qu'il y a de plus proche de nous en termes de temps, la crise des sous-marins australiens, la tension à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, également à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont là, François Hesbourg, autant de symptômes de cette montée des tensions. Ce qui se passe à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, est-ce une attaque migratoire ou une opération de guerre hybride ?
C'est les deux à la fois. Puisque, bien entendu, il s'agit d'êtres humains, de véritables êtres humains qui se trouvent pris littéralement entre deux fronts et dans le cadre d'une opération montée de toutes pièces par les dictateurs de Biélorussie qui s'est fait agent de voyage, passeur d'êtres humains, trafiquant transnational, louant des avions et transportant sur des milliers de kilomètres des malheureux qui en plus se sont fait joyeusement estampés au plan financier parce que pour Loukachenko il s'agissait aussi de réaliser une opération lucrative. Plusieurs milliers de dollars pour le billet d'avion, plusieurs milliers de dollars pour les services des passeurs, tout ça pour se retrouver à prix entre les pique-beux des gardes frontières biélorusses et le mur que représente désormais la frontière de l'Union européenne, Pologne, Lituanie, Lettonie, de la part de Loukachenko, il s'agissait bien d'une opération qu'il a lui-même qualifiée de guerre hybride.
Alors, d'après vous, François Hesbourg, Alexandre Loukachenko, il a décidé cette opération seul ou avec l'aval de Vladimir Poutine ?
Bon, la réponse honnête, c'est que je ne sais pas. Et que cela puisse arranger la Russie de voir l'Union européenne déstabilisée par cette affaire, sans nul doute, qu'il y ait forcément une forme de concertation entre Moscou et Minsk, puisque ce sont deux États voisins, on imagine mal qu'il n'y ait pas de dialogue entre les deux dirigeants. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait une marionnette qui s'appellerait Loukachenko et celui qui l'animerait, qui serait Vladimir Poutine. Le risque pour la Russie de voir la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie se fermer, avec comme impact direct le blocage des importations en provenance de l'Union européenne, dont la Russie a besoin. La Russie, ça produit et ça exporte du pétrole, du bois, du gaz, et ainsi de suite. Mais par contre, pour tout ce qui concerne les produits de consommation et les biens d'équipement, l'essentiel vient de l'Union européenne. Couper ça, c'est probablement pas un rêve pour Moscou. C'est plutôt un risque associé à cette opération. C'est pour ça que je suis très prudent. Je suis très prudent sur les hypothèses qui sont émises quant à une éventuelle animation de cette crise qui se ferait depuis Moscou et non pas depuis Minsk. Mais encore une fois, on est dans le domaine de la conjecture et des analyses, on n'est pas dans le domaine des faits.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, on poursuit avec la question de la Russie, directement ou indirectement. En tout cas, on constate, et ce sont les Américains qui ont à nouveau alerté les Européens, donc une concentration des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Alors, une concentration qui n'est ni récente ni soudaine. Elle s'est produite au cours de l'année. Mais tout de même, ça fait plusieurs années que la Russie est en capacité d'attaquer l'Ukraine à grande échelle. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus à propos de l'Ukraine, François Hesbourg ?
Ce qui m'inquiète le plus, c'est tout simplement le constat que le recours à la guerre, au sens le plus basique du terme, les gens qui se tirent dessus, est quelque chose qui n'a jamais cessé depuis 2014.
Invasion de Crimée.
Entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu de l'ordre de 14 000 personnes qui ont été tuées dans les combats et qui, certes, n'ont pas été au cours des dernières années de très grande ampleur, mais ils n'ont jamais cessé. Et donc, la notion que la Russie puisse vouloir s'emparer de tel ou tel gage en Ukraine, au-delà du terrain déjà pris, l'annexion de la Crimée, bien sûr, mais aussi l'occupation d'une partie du bassin du Donbass, et la notion que la Russie puisse recommencer n'est pas du tout une notion folle. Ça a existé, ça n'a jamais vraiment cessé, et ça pourrait redémarrer plus fort. Et le fait est que les déploiements militaires au cours des dernières semaines mettent sur le terrain des forces russes réputées de meilleure qualité, plan humain, plan de l'équipement, que celles qui étaient stationnées dans les parages, notamment lors de la montée en puissance au printemps dernier. Là, on a affaire à des gens que, si Moscou donne le coup de sifflet, bref, comme on dit chez les militaires, d'avancer dans telle ou telle direction, là, ils ont a priori ce qu'il faut sur place pour opérer avec un délai très court. Donc, il y a quand même intérêt à prendre au sérieux ces risques. Si nous, Européens, on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir la guerre en Europe, parce que tout ça se passe en Europe, c'est malheureusement beaucoup plus facile à imaginer quand vous êtes à Moscou ou à Kiev.
Alors, prendre au sérieux le pire, se préparer au pire avec Vladimir Poutine. Il y a eu le sommet vidéoconférence entre Joe Biden, l'Américain, et Xi Jinping, le Chinois. On en parlera. D'après vous, Poutine voudrait aussi son sommet avec Joe Biden ?
Il a eu son sommet à Genève il y a quelques mois. Et ce sommet était intéressant à deux titres. D'abord, il s'est plutôt bien passé. Et deuxièmement, ils ont parlé des sujets qui les intéressent vraiment, l'un et l'autre, au plan bilatéral, c'est-à-dire essentiellement tout ce qui concerne la stabilité nucléaire stratégique. Et le seul domaine dans lequel la Russie peut se poser comme l'égal des États-Unis, c'est précisément ce domaine-là. Donc pour Poutine, il y a un avantage politique évident à voir l'Amérique reconnaître cette dimension de la puissance russe. Et pour les États-Unis, et au-delà des États-Unis, de leurs alliés européens, il y a évidemment un intérêt à ce que les éléments de stabilité stratégique que représente notamment le traité qu'on appelle New Start, qui concerne les grands systèmes nucléaires stratégiques, que ce traité ait été prolongé jusqu'en 2026 et que des pourparlers aient été engagés pour mettre au point ce qui pourrait venir après le traité. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce dont ils n'ont pratiquement pas parlé. Biden n'a pas envie de passer son temps à s'intéresser à des problèmes qui, pour lui, sont secondaires, comme la Syrie ou même l'Ukraine. Le problème principal pour M. Biden, plan géostratégique, c'est la Chine. Et Poutine, de son côté, ne semble pas avoir d'intérêt particulier à voir les États-Unis s'intéresser davantage à ces sujets sur lesquels Poutine veut conserver la main. Donc, ce dialogue très particulier entre les États-Unis et la Russie est aussi typique du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, ce qui intéresse dorénavant les États-Unis, c'est principalement la compétition stratégique et idéologique avec la Chine, et la Russie passe de fait au second rang, ce qui est pas forcément la meilleure des nouvelles pour les Européens et surtout pour ceux qui comptent principalement sur les États-Unis pour assurer leur sécurité par rapport à la Russie.
Alors, puisque vous avez parlé de la Chine, François Hesbourg, on va y partir. On reparlera de l'Europe petit peu plus tard dans l'émission pour évoquer le nouveau gouvernement en Allemagne et cette question, est-ce que l'Europe a les moyens d'être une puissance affirmée ? Alors, on va commencer avec l'Indo-Pacifique, qui est devenu le pivot du système de défense américain. En quoi la situation dans l'Indo-Pacifique diffère-t-elle de l'ordre bipolaire de la guerre froide, François Hesbourg ?
Alors, ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, c'est d'abord effectivement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le pivot régional Asie-Pacifique, Indo-Pacifique pour les États-Unis et la Chine. Mais c'est aussi un sujet mondial, c'est-à-dire c'est cette opposition-là qui va dorénavant structurer le système international. La mauvaise nouvelle, c'est que les éléments qui avaient préservé une forme de stabilité pendant la guerre froide, qui avaient évité qu'elle ne dérape, ne sont pas présents dans l'opposition américano-chinoise. Les États-Unis et l'Union soviétique, malgré leur opposition pendant la guerre froide, avaient des références communes. D'abord, en ce qui concerne, ça n'allait pas de soi, il a fallu du temps pour y arriver d'ailleurs, avaient une vision commune quant à l'importance d'assurer la stabilité nucléaire, d'éviter la Troisième Guerre mondiale, pour faire court. Jusqu'à présent, du côté chinois, il ne semble y avoir aucune préoccupation de ce type. Alors, est-ce grave, docteur ? Potentiellement, oui, bien sûr. Parce que pour éviter la guerre mondiale, pour éviter un risque de dérapage nucléaire, encore faut-il avoir une vision en partie partagée de ce qui constitue la dissuasion. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, c'est que le système international, avec toutes ses limites, avait quand même des éléments partagés entre Moscou et Washington. Les Nations Unies, bien sûr, créées à l'initiative des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment les États-Unis et l'Union soviétique. Donc même si les super grands, pendant la guerre froide, se sont très souvent joyeusement assis sur les prérogatives des Nations Unies, et cela ne pouvait pas être manifeste. Les uns et les autres prétendaient, c'était l'hommage que le vice rendait à la vertu, prétendait agir dans le cadre d'un système international dont l'élément structurant serait le multilatéralisme onusien. On a vu avec la pandémie qu'il n'y a pas de terrain d'entente de ce type-là entre la Chine et les États-Unis. Et enfin, un dernier point qui est un peu contre-intuitif, c'est que la Chine n'a pas d'alliés. Il n'y a pas de système d'alliance chinois comme il y en avait du côté de l'Union soviétique pendant la guerre froide. C'était alliance contre alliance, bloc contre bloc, avec dans les deux cas, communisme soviétique, libéralisme politique américain, et il y avait deux visions avec des fondations que représentaient les deux grands systèmes d'alliance, nature très différente au demeurant. Ça, la Chine n'est pas du tout encore dans ce registre. Elle a une politique beaucoup plus opportuniste que ne pouvait l'avoir l'Union soviétique pendant la guerre froide. Bon, tout ça peut encore changer. La Chine accède au rang de superpuissance seulement depuis quelques années. Le processus n'est pas terminé. Mais pour l'instant, on ne va pas vers quelque chose d'aussi stable pour les pays directement concernés dans les deux systèmes d'alliance que ce que l'on avait pu avoir pendant la guerre froide.
Une politique opportuniste de la Chine. On vous retrouve, François Hesbourg, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
François Heisbourg est notre invité, spécialiste de géopolitique, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Son dernier ouvrage, Le retour de la guerre, paru chez Odile Jacob. François Heisbourg, on a terminé la première partie de l'émission sur l'Indo-Pacifique ou l'Asie-Pacifique qui est devenu le pivot du système de défense américain. Vous nous avez expliqué en quoi la situation dans l'Indo-Pacifique diffère actuellement de l'ordre bipolaire de la guerre froide. On a bien compris qu'entre la Chine et les États-Unis, ce qui se dessine, c'est quelque chose de beaucoup plus volatile, avec des risques plus lourds de guerre ouverte que ne l'était la guerre froide. La question évoquée dans la première partie de l'émission, et même en introduction peut-être, de la rupture du contrat australien avec les sous-marins français, s'inscrit dans cette volatilité précisément de chacun par rapport à la situation ?
Oui, bien sûr. Alors, d'abord parce qu'il y a une montée en puissance des moyens militaires chinois, avec un risque de conflit dans la région important, notamment autour de Taïwan. L'horizon de planification responsables taïwanais, c'est 2025-2026. Et du côté américain, le commandement du Indo-Pacifique, c'est du type 2026-2027. Donc on est dans du relativement court terme. Et les Australiens, qui sont dans la région, ont modifié leur appréciation de la situation et ont voulu renforcer les liens de défense et les liens stratégiques avec les États-Unis. J'allais dire, jusque-là, d'ailleurs, tout ça est malheureusement tout à fait naturel. Je dis malheureusement dans le sens où c'est bien un risque de guerre qui amène à ce changement de position, mais en même temps, le changement de position tout à fait rationnel, c'est-à-dire la notion que les Australiens se soient dit « Ah oui, au fond, il faudrait peut-être que l'on aille vers des sous-marins à propulsion nucléaire plutôt que vers des sous-marins à propulsion classique. » En soi, c'est quelque chose que les Français pouvaient très bien comprendre. Mmh. Hein, c'est des raisonnements comme on sait aussi en tenir à Paris. Hein. Mmh. Mais ce qui s'est passé dans la pratique a été extraordinairement désagréable et révélateur. Désagréable, bien sûr, pour les Français qui ont perdu un marché très, très substantiel, hein, plus de 50 milliards d'euros. C'est quand même pas mal, même si une bonne partie de cet argent n'allait pas se retrouver en France. Et très désagréable aussi parce que trois de nos très proches alliés nous ont soigneusement tenus à l'écart précisément de la réflexion stratégique.
États-Unis, Canada, Australie.
États-Unis, Royaume-Uni et Australie. Les Canadiens se tâtent. Ça, c'est parfaitement horrible. Ça ne se fait pas entre alliés. Mmh. Et les Français, assez logiquement, l'ont très mal pris. Et en étant très révélateur, parce que la prégnance du pivot Indo-Pacifique dans la stratégie américaine est telle que les gens concernés, directement concernés par le dossier, ont oublié que l'Europe existait. Mmh. Et en l'occurrence, l'Europe, c'était la France. Mmh. Mais ce qui vaut pour la France vaut, en l'occurrence, pour l'Europe continentale de façon plus générale. Et la réaction française, après les premiers jours de cris de désolation à Paris, on était légitimement pas du tout contents. Et on l'a dit très fort. Mmh. La réaction à Paris était très intéressante, très intelligente. En fait, les Français, ce qu'a fait le président Macron, c'est de, quelque part, d'obliger Biden à se mettre lui-même en tête que cette affaire avec la Chine n'est pas une affaire régionale, mais une affaire dans laquelle il faut intégrer l'ensemble des données mondiales. Et par exemple, qu'est-ce qui est plus important ? 6 sous-marins nucléaires pour l'Australie ? Ou est-ce que c'est la coopération avec l'Union européenne pour limiter la mainmise chinoise sur la technologie, l'économie et les finances de l'Union européenne ? Et qu'est-ce qui est plus utile pour les États-Unis comme pour les Européens ? Est-ce que c'est de se trouver en chien de faïence et de se faire, comme on dit dans le jargon, curiasser par les Chinois ? Ou est-ce que c'est de travailler ensemble ? Et très vite, on a vu s'instaurer ce dialogue tout à fait inattendu, je crois, mais très positif, entre les États-Unis et la France sur l'art et la manière d'approcher ces sujets et ce qu'on a vu à travers les communiqués conjoints entre les Américains et les Français. Ça ne veut pas dire que les comptes soient soldés.
Et de fait, vous tenez pour sincères les excuses américaines, François Hugo.
Écoutez, une superpuissance n'a pas pour l'habitude de s'excuser. Et là, je dois dire, là aussi, c'était une grande surprise, comme Biden a dit lui-même, écoutez, on a été vraiment maladroits. Il avait raison, ils avaient été vraiment maladroits. Mais c'est une chose que de l'avoir été, et c'est encore une autre chose que de le dire. Bien sûr, encore une fois, ça ne solde pas les comptes, mais ça crée une assez bonne base. À l'inverse, c'est un peu le paradoxe, c'est que notre voisin britannique ne manifeste absolument pas ce type d'approche. Les Britanniques, ils sont ravis du mauvais coup auquel ils ont participé. Les Britanniques ont joué un rôle instrumental majeur dans l'initiation de cette affaire. Et Boris Johnson a tenu des propos et un langage qui montrent non seulement qu'il n'y a aucun élément de contrition, mais il y a au contraire un ravissement chez lui de la façon dont on est presque tenté d'utiliser un langage trivial pour qualifier l'attitude britannique. Mais cette crise aura en tout état de cause servi à montrer que dorénavant, personne, et notamment l'Europe, ne peut échapper à la nouvelle polarisation du système international qu'est la confrontation sino-américaine.
Alors, on va reparler de l'Europe, mais avant cela, j'ai une question, parce que j'aimerais avoir votre avis sur Taïwan, donc on reste en Asie, François Hesbourg. C'est selon vous la cause de conflit la plus inquiétante entre les États-Unis et la Chine ?
Au jour d'aujourd'hui, c'est certainement ce qui est le plus inquiétant. La Chine de Pékin n'aura de cesse que de vouloir faire revenir au sein de la patrie chinoise une île et sa population qui paraissent à Pékin comme devant lui revenir. Et les Taïwanais, de leur côté, sont apparemment déterminés à ne pas être purement et simplement absorbés au sein de la Chine communiste. Il y a tous les ingrédients de la coercition. Alors, est-ce que ce sera une guerre en mauvaise et due forme, si je puis dire, ou est-ce que la seule menace de la guerre suffira à faire plier Taïwan, 22 millions d'habitants versus 1 milliard 400 millions de l'autre côté du détroit de Taïwan, Chine, ça, l'avenir le dira. Mais c'est certainement ce qu'il y a de plus inquiétant, parce que le casus belli s'impose de lui-même, c'est-à-dire pour Pékin. Pékin dit et rappelle sur tous les tons que telle ou telle initiative taïwanaise serait considérée comme inacceptable et provoquerait la guerre. La guerre est évoquée ouvertement par Pékin et Taïwan, naturellement, s'y prépare. Et là, sans vouloir faire de la paresse intellectuelle qui consiste à dire « Regardez, c'est comme l'Europe des années 30, c'est la crise des Sudètes ou c'est l'Anschluss ou que sais-je », le fait est que là, on se trouve quand même dans une ambiance qui fleure bon, effectivement, le type de confrontation qui avait servi de prélude à la Deuxième Guerre mondiale. C'est très, très inquiétant. Deuxième Guerre mondiale dont on oublie qu'elle avait commencé en Asie.
C'est vrai. Pierre Grosser nous l'a rappelé à travers son grand ouvrage sur cette thématique. Alors, François Hesbourg, on a parlé de la question de la crise des sous-marins. Elle a fait dire à certains, cette crise, que finalement l'Europe était hors-jeu. Est-ce qu'elle a, l'Europe, les moyens d'être une puissance affirmée ? Et que pensez-vous précisément de la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis ? C'est un dossier sur lequel l'Europe devrait travailler davantage ?
Oui, dans mon livre, je rappelle la thématique d'un ouvrage de science-fiction chinois écrit par un auteur qui s'appelle Chu Li-Chin, qui est traduit en français, qui s'appelle « Le problème des trois corps ». Alors ça peut paraître très loin de nos sujets. En plus, c'est de la pure science-fiction, demeurant excellente, de très bonne qualité. Et les trois corps, dans cette histoire, ce sont trois étoiles. Alors mettons que ces trois étoiles soient la Chine, les États-Unis et la Russie. Et pris dans le champ gravitationnel des trois étoiles, vous avez une planète qui n'est pas une étoile, qui n'a pas les caractéristiques de puissance que peut avoir une étoile. Et ça, c'est l'Europe. Nous sommes la planète qui est tiraillée entre les trois grandes puissances, chacune d'entre elles étant de nature différente, mais ayant les caractéristiques de grande puissance. L'Europe n'est pas une puissance au sens normal du terme. Ce n'est pas un État. L'Europe n'est pas un État. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sache rien faire. Il y a des tas de choses qu'elle sait faire. Je vais en dire un mot. Mais elle fonctionne de façon totalement asymétrique par rapport à ce monde très dur, ce monde du choc des puissances, qui est désormais redevenu le nôtre au cours des toutes dernières années. Alors l'Europe, là-dedans, qu'est-ce qu'elle sait faire ? Elle sait faire le contrôle des investissements. Elle sait faire le contrôle du commerce extérieur. Elle sait faire, ce qui est très important, les grands standards en matière d'application technologique. Je prends un exemple pratique. Et vous prenez votre téléphone portable, vous fonctionnez à l'intérieur d'un système qui, depuis 2 ou 3 ans, est en fait normé à l'échelle mondiale par l'Union européenne. Et au début, les grandes sociétés, les grandes plateformes américaines disaient « jamais, jamais on acceptera les normes européennes ». Et puis l'une après l'autre, les grandes entreprises américaines et bien sûr chinoises s'y plient. Pourquoi ? Parce que d'abord l'Europe est un marché d'une taille équivalente à la Chine ou aux États-Unis. C'est un marché unique qui sait parler d'une seule voix dans ces domaines-là. Et dès lors que les uns et les autres utilisent ces normes, même l'État le plus puissant ne peut pas s'y soustraire. Ça, l'Europe sait encore faire ça. Et c'est ce que les Américains ont été obligés de comprendre, parce que et les Américains eux-mêmes n'ont pas accepté avec une grande facilité ce rôle européen. Mais vous aurez observé qu'une semaine, 2 semaines, pardon, après la révélation de l'affaire des sous-marins, il y a eu une réunion à Pittsburgh, aux États-Unis, et la première réunion du Conseil Union européenne-États-Unis sur la technologie, sous-entendu vis-à-vis de la Chine. Il avait été fortement question du côté européen d'annuler cette réunion après l'affaire des sous-marins. Et les Français et les Américains ont décidé que non, ce serait idiot de ne pas tenir cette réunion, parce que la Chine elle-même commence à vouloir imposer ses normes, ses standards à l'échelle mondiale. Si les Américains et les Européens travaillent les uns contre les autres dans ce domaine, nous nous ferons les uns et les autres mangés tout cru par les Chinois. Donc, on a décidé, et ça c'est un fait géostratégique qui est probablement plus important que l'affaire des sous-marins, on a décidé qu'il fallait travailler ensemble. Encore une fois, ça ne vient pas naturellement aux Américains. On a dû créer le rapport de force par rapport aux Américains pour qu'ils acceptent ça. Mais l'Europe elle-même a pris collectivement une décision, et ça on le voit à travers la politique que dit vouloir mettre en œuvre la nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne, eh bien, on a pris la décision que, un, il fallait traiter la Chine comme un risque, voire comme une menace, et qu'il fallait travailler en intelligence avec les États-Unis et non pas contre les États-Unis.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Et vous le dites, hein, François Hesbourg, le champ de bataille avec la Chine se passe beaucoup plus que durant la guerre froide dans des domaines qui ne sont pas directement militaires.
Et ça, c'est la supériorité de la Chine par rapport à l'Union soviétique. L'Union soviétique avait la capacité de détruire la planète, avait vraisemblablement, n'a jamais été mise à l'épreuve, mais vraisemblablement les forces armées les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Mais au plan stratégique, ce sont les Occidentaux, les Européens, les Américains, qui dominaient le monde financier, le monde économique, le monde monétaire, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ces terrains-là, qui sont l'arrière-plan stratégique de ce qui peut se passer dans le domaine militaire, sont contestés par la Chine. Donc c'est le champ de manœuvre, le champ de la confrontation est beaucoup plus large. Mais le problème, c'est que ça ne veut pas dire qu'en ne faisant pas la guerre militaire, on va éviter la guerre militaire. Le problème, c'est que il y a, et ça c'est une des grandes différences par rapport à la guerre froide. Bon, pendant la guerre froide, vous savez, on savait qu'il y avait un vrai seuil entre la non-guerre et la guerre. Si pendant une des crises de Berlin ou pendant la crise des fusées de Cuba, l'un ou l'autre s'était mis à tirer, chacun était conscient qu'il y avait un risque très élevé que cela débouche sur la Troisième Guerre mondiale, sur l'Holocauste nucléaire. Et tant qu'on ne tirait pas, on pouvait l'éviter. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette césure, vous n'avez pas ce seuil. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la guerre cybernétique, on parle beaucoup de la guerre hybride, de façon plus large, en se disant, c'est pas vraiment la guerre, c'est pas la guerre militaire. Mais en fait, on ne le sait pas. Si demain, au lieu d'avoir une attaque pour obtenir une rançon d'un groupe travaillant pour la Corée du Nord ou que sais-je, contre l'hôpital de telle ou telle ville de province ou de Paris, s'agissant de la France, ça, c'est de la criminalité, criminalité d'État éventuellement. Entre guillemets, il n'y a pas de mort, ou du moins s'il y en a, ils ne sont pas voyants. Mais ça peut basculer du jour au lendemain. Une erreur de manœuvre, ou au contraire, une volonté d'escalade, et puis vous vous retrouvez avec des centaines de morts dans un centre hospitalier parce qu'il y a une attaque informatique et qu'on n'a pas su gérer de notre côté. On ne répond pas, on ne riposte pas. Très compliqué à imaginer. Bien sûr que vous allez riposter. Et donc, le risque que l'on passe d'une guerre qui ne dit pas vraiment son nom à quelque chose qui ressemble à ce qu'était la guerre 18e, 19e, 20e siècle, ce risque-là est malheureusement important.
C'est ce que vous appelez le continuum de la non-guerre à la guerre la plus dure. François Hesbourg, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle rapidement, et je m'en excuse auprès d'eux, les Africains en l'occurrence, je voulais qu'on parle de l'Afrique, la question climatique et les risques qu'elle comporte, cette question climatique, d'accroître les tensions.
Deux choses. L'Afrique est aujourd'hui le grand perdant dans la pandémie, et l'égoïsme d'État, et je dirais de tous les États, vis-à-vis de l'Afrique, est quelque chose totalement inacceptable, moralement, humainement, et totalement stupide au plan pratique, parce que si l'Afrique n'est pas vaccinée, ça veut dire que le monde n'est pas vacciné. Et c'est pareil pour le réchauffement climatique. Et la COP26 n'a pas donné des résultats formidables d'une façon générale, mais elle a été particulièrement nulle au niveau des résultats en ce qui concerne l'aide financière, notamment vers l'Afrique, non simplement pour faciliter la mise en place des mesures permettant de réduire l'impact du réchauffement, mais aussi les sommes nécessaires pour préserver les grands actifs qui permettent, notamment en Afrique, de contrer le réchauffement climatique. Je pense à la gestion de la forêt vierge. Je crois que c'est M. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui disait on produit de l'oxygène, mais il faut nous aider à produire de l'oxygène. Sur le fond, il a raison. On peut toujours poser toutes sortes de questions et de conditions sur l'art et la manière de faire en sorte que l'éventuel argent soit bien dépensé. Mais encore faut-il qu'il y ait la décision réelle de mettre en place l'argent et non pas de vagues déclarations d'intention. Donc là-dessus, je suis à la fois en tant que citoyen atterré par notre manque d'attention, le moins que l'on puisse dire, vis-à-vis de l'Afrique sur ces deux grands défis, sanitaire et écologique, et très inquiet sur les conséquences qui pourraient en être.
Merci François Hesbourg. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le retour de la guerre, paru chez Odile Jacob. Et je rappelle que vous êtes spécialiste de géopolitique et conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous évoquerons la question des violences familiales.